problèmes?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Vous travaillez à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux dominants, celle qui s'exerce jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reconnaître.
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs de la plus rebelle des radios, Radio Canu sur le 102.2, dans sa région lyonnaise et sur internet, radiocanu.org. Donc il est 21h07, c'est l'émission Angle Mort, émission de critique sociale qui prend la parole. Au menu de ce soir, on va revenir un peu après la bataille sur les attaques islamistes qui ont eu lieu en janvier. On s'est un peu donné le temps de la réflexion, on recueillit quelques documents qui nous semblent intéressants, documents ou textes, prise de position sur la question. On va faire des lectures de ces textes qui touchent directement ou indirectement la question de ces attaques islamistes. Et notamment on accueille un nouveau collaborateur à Angle Mort, puisque le sociologue Gérard Mauger nous fait le grand plaisir de collaborer à l'émission et de nous envoyer régulièrement la version enregistrée, la version audio de ses chroniques qu'il écrit pour la revue Savoir Agir. Et donc précisément cette chronique, la dernière en date, portait sur une tentative d'analyse du glissement d'une partie des jeunes de cité, on va dire, pour le dire très vite, dans une forme de djihadisme. Et donc une tentative d'explication sociologique de ce phénomène. Voilà, ça, donc entre plusieurs pièces apportées au dossier de cette réflexion, ça sera cette chronique. Pour, à notre habitude, on commence avec un petit peu de musique pour finir de se mettre en place. Et puis après, je lirai donc un des textes qui m'a semblé le plus intéressant, un texte qui avait été écrit à chaud, donc juste après les assassinats à Charlie Hebdo. Le cycle des événements n'était pas encore terminé à ce moment-là, donc c'était le texte de Quartier Libre. Et puis après, on passera à la chronique de Gérard Bauger. Voilà, Radio Canu, Angle Mort, émission de critique sociale.
Je n'y peux pas grand-chose si nous ne sommes pas en phase. Voici mes papiers, relevez mon adresse et mon place. Et arrêtez de me palper à la moindre occasion. Car à la base, ma peau n'est pas douée pour la métamorphose.
Je cherche l'angle mort. Je cherche l'angle mort.
Ce pays n'est pas le pays du fromage. Ce pays est comme un fromage. Un gros camembert qui pue, avec plein d'asticots grouillants à l'intérieur. Des petits asticots blancs, bien collabos. Heureusement pour le reste de la planète, ce fromage n'est pas très grand. Et ces asticots aussi méchants que trouillards n'en sortent pas, car ils savent qu'ils seraient vite écrasés. Le seul truc qui s'échappe un peu de ce fromage, c'est cette puante rance que les asticots appellent culture, et qui pue la mort. Malheureusement pour moi, je suis né dans ce fromage, et je vais certainement mourir dedans.
De retour sur Angle Mort, on vient de s'écouter P4 à l'attaque avec la chanson Citoyen tirée de leur leur best-of, ou je sais pas si on peut le dire comme ça, mais un recueil de leurs plusieurs titres qu'ils ont donné comme titre pour un djihad de classe. Et on commence donc cette émission par la lecture d'un des textes qui avait été publié à la suite des assassinats à Charlie Hebdo. Et qui pour le coup moi me semblait vraiment résumer en tout cas ce qui me tenait à cœur, enfin ce qui la réaction que j'en avais et qui me semble intéressant dans ce qui a été publié. Donc c'était le texte de Quartier Libre intitulé « Ça faisait longtemps que Charlie Hebdo ne faisait plus rire, aujourd'hui il fait pleurer ». Il est minuit moins le quart dans le siècle. Nous sommes à un point de bascule historique sur l'islamophobie et le déchaînement du racisme en France et plus largement en Europe. La lecture simplifiée à l'extrême par les médias de cette journée du 7 janvier 2015 va se résumer et s'imprimer dans de nombreux cerveaux par l'attaque meurtrière contre un journal de gauche, entre guillemets, par des musulmans. Cela va déstabiliser et retourner les positionnements politiques. La peur, la colère, la tétanie, l'incompréhension, la panique morale vont chez certains laisser largement place à la haine. Au-delà des paramètres d'opportunité militaire qui ont pu justifier le choix de ce journal par ce commando, cette attaque correspond à une logique et à une vision politique des tac-tac. Précipiter l'affrontement et la radicalisation de fractions importantes de la population. Charlie Hebdo bénéficie d'un capital symbolique encore important à gauche. Il est encore considéré comme antiraciste et incarnant la liberté d'expression par de nombreuses personnes. Ce n'est pas Minute ou Le Figaro qui ont été visés. Les tac-tac savent que si la digue antiraciste de gauche saute, alors c'est toute l'Europe qui bascule dans le déchaînement d'une violence raciste symbolique et physique dont les musulmans sont les premières proies. Dans ce scénario, les guerriers tac-tac qui se fantasment en défenseurs de l'islam espèrent que les populations musulmanes, alors violemment opprimées, viendront trouver protection derrière eux. un peu comme les sionistes toujours prêts à instrumentaliser les vagues d'antisémitisme pour justifier l'existence de l'État d'Israël, en refuge des populations juives opprimées, les Tak-Tak ont besoin de l'oppression de l'islam pour conquérir les corps des croyants. Ne soyons pas hypocrites, Charlie Hebdo n'est pas un ami politique. Depuis des années, il a basculé dans le camp de la pensée dominante et participe au développement d'une islamophobie de gauche. Pourtant, personne ne peut ni ne doit se réjouir de l'exécution de ces journalistes. Rien ne peut justifier cette acte dans le contexte actuel de la France. Mais cette attaque ne doit pas faire taire non plus les critiques à l'encontre de Charlie Hebdo et de la presse en général sur sa ligne rédactionnelle et humoristique islamophobe. Aujourd'hui, porter la guerre dans la salle de presse de Charlie Hebdo, c'est comme poser une bombe à la gare de Bologne. C'est un acte de terreur pour désorienter. Sur cet acte, complotisme et islamophobie vont prospérer. L'attaque contre Charlie Hebdo permet la prise en otage de millions de personnes de confession musulmane en France et en Europe. Les seuls gagnants de cette attaque sont les réactionnaires de tous bords, islamophobes en tête. En face, les Tak-Tak qui veulent le repli sur elles d'une communauté musulmane hétérogène se frottent les mains. Cette attaque, c'est un verrou qui est mis en place pour nous bloquer entre le marteau des takfirs et l'enclume du néolibéralisme. Les multiples sensibilités présentes dans les quartiers vont faire face à la sommation de choisir l'embrigadement à la cause nationale ou la marginalisation et la criminalisation. Les conditions permettant l'arrivée d'une telle catastrophe étaient réunies, nous le craignons. L'EPS a liquidé durant des années toute opposition à gauche et surtout celle qui tentait de se construire dans les quartiers populaires. Cela a contribué à laisser le terrain libre à ce qui peut se faire de pire en matière de nihilisme. Parce qu'au-delà de la ligne réactionnaire, ce qui marque ce genre d'action, c'est l'impasse politique, économique et sociale dans laquelle l'Europe se retrouve à chaque crise économique. Le nihilisme d'une partie des nôtres prospère sur la misère que sèment les gouvernements capitalistes en Europe. Ce qui s'est passé ce 7 janvier, c'est la possibilité offerte par les Tak-Tak à ceux qui nous oppriment de couper des liens de solidarité et de détruire une communauté de destin entre croyants et non-croyants. C'est la possibilité de condamner à l'avance n'importe qui en fonction de sa croyance ou de son faciès. Les analyses biaisées servant de propagande aux pires réactionnaires, les appels à l'ordre républicain, à l'unité nationale, à la laïcité, à la liberté d'expression, à la démocratie parlementaire comme rempart face à la barbarie de l'ennemi intérieur, nous tombent dessus comme une déferlante. Dans ce contexte, la ritournelle sur l'angélisme, entre guillemets, dont la gauche coupable, entre guillemets, à nouveau, a fait preuve envers l'immigration et les musulmans, risque de faire basculer bien des personnes raisonnables dans le camp de la haine de l'autre. La population vivant en France se retrouve coincée dans ce contexte de crise économique entre l'enclume néolibérale qui ne donne pas de solution autre qu'individuelle et le marteau réactionnaire qui met les origines culturelles ou biologiques des classes populaires en compétition. La seule chose à faire est de tenir la ligne qui permette de nous sortir de ce piège, se battre collectivement pour la justice économique et sociale. Pris entre le marteau et l'enclume, nous devons stopper le forgeron. Dans cette période sombre, nous devons nous inspirer de ce qui se passe ailleurs dans le monde, comme au Kurdistan, coincé entre l'impérialisme occidental et les réactionnaires de Daesh. Ici comme ailleurs, nous avons la possibilité de créer les conditions de notre libération. Voilà, donc ce texte a été rédigé à chaud après donc le 7 janvier, l'assassinat des journalistes à Charlie Hebdo et d'autres. Il me semble être un des textes les plus intéressants qui avait été fait à ce moment-là, en tout cas. Et pour apporter d'autres pièces à ce dossier un peu général de tentative d'analyse de ce qui s'est passé en janvier 2015 en France, je laisse la parole à Gérard Mauger, donc qui, dans son texte, nous tente une explication sociologique ou apporte certains éléments de tentative d'explication sociologique de l'actualité à ce moment-là et notamment de qu'est-ce qui va amener certains jeunes de cité à glisser vers du côté des Tak-Tak, comme l'appelle Quartier Libre, du côté des djihadistes, on pourrait aussi dire. Voilà, donc c'est Angle Mort sur Radio Canut.
Au-delà des prises de position inspirées par l'indignation morale ou les convictions militantes, comment soumettre l'actualité aux exigences ordinaires de la connaissance scientifique ? L'intention scientifique passe d'abord par l'établissement des faits, étant entendu que ces faits sont plus ou moins objectivables et que leur définition, comme celle d'ailleurs de la liste des faits jugés pertinents, est un enjeu de lutte. On peut ainsi, en se focalisant sur l'attentat contre les blasphémateurs de Charlie, oublier l'attentat antisémite contre le supermarché cachère ou vice-versa. De façon générale, dans le cas présent, les faits à envisager sont les attentats djihadistes des 7 et 9 janvier 2015 et également les réactions qu'ils ont suscitées, à commencer par la grande manifestation du dimanche 11 janvier. Elles passent ensuite par l'intention de les expliquer dans une perspective scientifique. Il s'agit à la fois de rendre compte de ces attentats, étant entendu bien sûr qu'expliquer n'est pas synonyme d'excuser, et de la manifestation du 11 janvier, sachant d'ailleurs que toute manifestation est suivie, comme disait Patrick Champagne, d'une manifestation de papier qui a pour enjeu le sens de la manifestation. Je voudrais indiquer ici quel pourrait être le cadre général d'une enquête qui se donnerait pour objet la sociogenèse de cette trajectoire djihadiste, en évoquant au préalable quelques-unes des difficultés de ce genre d'enquête. En la matière, il faut d'abord passer outre la dénonciation anticipée d'un sociologisme réducteur, récuser le repli avant même toute tentative d'explication sociologique sur la psychanalyse ou la psychiatrie, et bien entendu le refus de toute explication. On a vu ainsi un sociologue, ou réputé tel, Jean-Pierre Le Goff, s'indigner contre un sociologisme réducteur, je cite, « perversion de la pensée, apparentée à un aveuglement, désormais en morceaux », et récuser, dans le même élan, la psychologie, accusée de s'ériger en nouvelle explication globale du monde. Bref, une invitation à refuser toute espèce d'explication. Quel pourrait donc être le cadre général d'une enquête qui se donnerait d'abord pour objet la sociogenèse de ces trajectoires djihadistes ? De façon générale, il me semble que le problème posé est, d'une part, celui de la sociogenèse des trajectoires déviants chez les jeunes des cités et de l'élargissement au djihad du répertoire des possibles déviants, où j'avais cru pouvoir distinguer un espace tripolaire, d'une part le monde des bandes, d'autre part le milieu, comme on dit, celui de la délinquance professionnelle et la bohème populaire. Et, d'autre part, second problème, celui de l'apparition d'une offre djihadiste associée à un État profondément divisé, internationalement et nationalement, du champ religieux musulman, capable, dont offre capable, de mobiliser et canaliser une demande de biens de salut émanant de jeunes des cités. Parmi les multiples difficultés que rencontre inévitablement ce genre d'enquête, je voudrais en souligner une en particulier. Il s'agit de la tension entre l'appel à prendre les gens comme ils sont et l'aversion qu'ils peuvent susciter chez l'enquêteur. D'un côté, il s'agit de rapporter méthodiquement les djihadistes aux causes et aux raisons qu'ils ont d'être ce qu'ils sont, et, dans cette perspective, de se situer en pensée à la place qu'ils occupent dans l'espace social. De l'autre, il semble difficile, dans le cadre de ce genre d'enquête, de s'en tenir à l'irénisme de Howard Becker, qui, invitant à prendre parti pour les dominer, méconnaît que la misère matérielle et culturelle n'engendre pas systématiquement des victimes honorables. Contre la dénonciation donc d'une absolution sociologique implicitement contenue dans toute tentative d'explication ou de compréhension, il faut rappeler que prendre au sérieux le point de vue de ce genre d'enquêté et tenter d'en rendre compte, ce n'est évidemment pas le justifier, le légitimer et moins encore le soutenir ou y souscrire. En l'occurrence, la compréhension peut aussi servir à mieux le combattre. Pour rendre rendre compte de l'apparition d'une offre djihadiste dans les quartiers, sans doute faut-il d'abord rappeler comment l'implantation de l'islam est venue concurrencer l'offre communiste en déclin dans les cités et mettre d'abord en évidence le rôle stratégique d'entrepreneurs religieux locaux, les imams de quartier. Dans cette perspective, Étienne Pingot, dans sa thèse, a montré que le processus d'autonomisation institutionnelle de l'islam procède de l'autonomisation des compétences religieuses, l'érudition islamique devenue une compétence distinctive, et des pratiques religieuses liées elles-mêmes à la séparation des lieux de culte, condition nécessaire à l'apparition d'un champ religieux relativement autonome. Mais ce processus d'autonomisation est également partie liée avec l'apparition de la politique de la ville. Elle est associée, en effet, en ce qui concerne les migrants et leurs descendants, à la doxa de l'altérité culturelle ou de la double culture. Cette requalification d'une fraction des classes populaires par rapport à sa dimension immigrée, cette réinvention des origines, inspire une pléiade de dispositifs d'action spécifiques. Prévention, insertion, lutte contre l'échec scolaire, etc., etc. Le déploiement de ces dispositifs implique la mise en place d'un marché de l'emploi d'animation locale à faible droit d'entrée. Il organise un maillage de terrain délégué à des agents autochtones, un tissu associatif beurre s'est ainsi mis en place. Au prix d'une conversion de l'engagement beurre en engagement islamiste et des ressources militantes accumulées en capital religieux, ces nouveaux travailleurs sociaux, nouvelles élites des quartiers, intellectuels organiques des cités, si l'on veut, et de ce fait, nouveaux modèles d'identification, sont, selon Étienne Pingot, des acteurs centraux de la réislamisation des quartiers. Petite bourgeoisie des cités, petits porteurs de capital scolaire, devenus entrepreneurs de morale, ils élargissent progressivement leur public et participent activement à la banalisation de l'islam dans l'espace public. Ce champ religieux, relativement autonome, peut être caractérisé par la très inégale distribution des capitaux entre ces différents pôles. Capital religieux, charisme et maîtrise de la langue liturgique, capital politique, capital social spécifique entretenu dans le champ politique local et national, et enfin capital économique, ressources financières mobilisables. Ainsi peut-on expliquer à la fois les formes de concurrence entre les offres d'islam par rapport à ce qui constitue l'enjeu propre au champ, le monopole de la définition légitime de l'islam, les luttes entre établis et nouveaux entrants, entre légitimité traditionnelle et orthopraxie, c'est-à-dire conformité des pratiques aux rites prescrits, et rendre compte de leur audience quantitativement inégale et qualitativement différenciée, même s'il n'y a pas de correspondance terme à terme entre offres religieuses et public de croyants. Ainsi peut-on mieux comprendre également les rapports entre champ politique et champ religieux, le pouvoir politique national ou local ayant la capacité d'arbitrer les luttes internes au champ religieux, sinon en imposant une bonne définition de l'islam, du moins en soutenant tel ou tel pôle au sein du champ religieux, et de peser ainsi sur l'issue des luttes symboliques entre entrepreneurs d'islam, mobilisant des ressources très inégales et ayant recours à différents répertoires d'actions en faveur des causes proprement religieuses. Construction de mosquées, pratiques vestimentaires, c'est la question du voile, et pratiques alimentaires, la question des cantines, etc. Mais cet état du champ religieux musulman en France ne tient pas compte des effets qu'exercent les fédérations musulmanes françaises, comme l'Union des organisations islamiques de France, l'Institut musulman de la Grande Mosquée de Paris, ou encore la Fédération nationale des musulmans de France, les gouvernements également d'états d'immigration, comme le Maroc, l'Algérie et la Turquie, les représentants de l'État français et les mouvements islamiques transnationaux comme le mouvement piétiste Tablir, le mouvement réformiste, le fondamentalisme salafiste ou wahhabite et bien sûr aussi les différents groupes djihadistes relayés par des imams et ou des sites internet. L'implantation de l'islam dans les quartiers s'opère ainsi dans un contexte indissociablement national et transnational. J'en viens maintenant à la question des demandes d'islam. De façon générale, une conception proprement sociologique du fait religieux, aux antipodes donc d'un point de vue religieux sur la religion, y voit l'expression légitimatrice d'une position sociale, une réponse à l'attente d'un message systématique capable de donner un sens unitaire à la vie. Les laïcs, écrit Pierre Bourdieu, n'attendent pas, ou pas seulement, de la religion, des justifications d'exister capables de les arracher à l'angoisse existentielle de la contingence et de la déréliction, ou même à la misère biologique, à la maladie, à la souffrance ou à la mort, mais aussi et surtout des justifications d'exister dans une position sociale déterminée et d'exister comme ils existent, c'est-à-dire avec toutes les propriétés qui leur sont socialement attachées. Dans cette perspective, il s'agit, parallèlement à l'enquête sur la structure et les transformations de l'offre religieuse, de mettre en évidence les conditions sociales d'appropriation de cette offre, son ajustement aux dispositions des publics visés et, dans le cas présent, les diverses modalités d'appropriation de l'islam. Si cette diversité condamne virtuellement à la collecte infinie de situations particulières, on peut néanmoins dégager, en s'appuyant sur la thèse d'Étienne Pingot, des logiques génériques sans prétention à l'exhaustivité. Premièrement, dans le cas des darons, les parents, l'investissement religieux, restaurant une autorité compromise par le chômage ou la mise à la retraite, est à la fois reconstitution et réhabilitation symbolique d'un entre-soi. Deuxièmement, dans le cas des intellectuels de première génération, soumis aux injonctions contradictoires de l'oubli des origines et de la fidélité aux origines, devient un autre et reste toi-même, l'engagement religieux, équivalent structurel de l'engagement communiste ou gauchiste en d'autres temps, est à la fois un gage de fidélité ou de réaffiliation aux origines et un investissement qui permet de ne pas déroger à la promotion culturelle en privilégiant les aspects lettrés d'une culture millénaire. Troisièmement, à l'inverse, l'appropriation de l'islam et de ses marqueurs les plus visibles, cosmétiques, vestimentaires, par des jeunes en échec scolaire, investis dans le business, comme on dit, peut être comprise comme un gage accessible à tous, sans droit d'entrée, de conversion morale, un marqueur de bonne conduite, de voyous retournés, opposable à la déchéance morale des dealers ou de toxicos repoussoirs. Quatrièmement, pour ceux qui ont juste assez fréquenté l'école pour y intérioriser une bonne volonté culturelle plus ou moins désarmée, l'appropriation de l'islam peut apparaître comme une requalification palliative à la relégation scolaire, une stratégie de revalorisation symbolique d'intellectuels frustrés, stratégie distinctive par rapport aux autres pôles de l'espace des styles de vie déviants des jeunes des cités. Composante religieuse de la bohème populaire contemporaine, si l'on veut, pôle cultivé de l'espace des styles de vie des jeunes de cité, il tend à valoriser l'orthopraxie plus accessible et plus visible que l'orthodoxie et se prêtant mieux aux logiques de surenchère. Cinquièmement, dans le cas sans doute beaucoup plus banal des appropriations sans complications particulières, la religion peut se propager sans susciter de démarches actives ou même de croyances réfléchies ou verbalisées. L'adhésion à la religion est d'autant plus immédiate qu'elle est incluse dans le monde de la tradition vécue comme monde naturel, écrit Étienne Pingot. L'institutionnalisation et la visibilité croissante de l'islam, mosquée et commerce halal, sa capacité à épouser les catégories de perception des interlocuteurs, le droit d'entrée nul dans un univers culturellement valorisé et l'omniprésence dans les cités du commerce halal qui contribue à l'inculcation d'une grille de lecture binaire halal-haram en matière alimentaire, vestimentaire, matrimoniale, etc., multiplient les occasions de se dire musulman alors même que la banalisation diminue le coût de l'adhésion et accroît celui de l'abstention. Ainsi peut-on comprendre ce qu'Étienne Pingot désigne comme l'appropriation religieuse sans conversion, où on peut voir l'outil principal de reproduction de l'islam. J'en viens maintenant pour conclure au fait religieux djihadiste. Pour construire sociologiquement ce fait religieux, sans doute faut-il, dans la même perspective, analyser le message djihadiste comme légitimation et mobilisation hérétique des propriétés guerrières, objectivement associées à des croyants qui se recrutent pour la plupart dans l'univers délinquant et n'ont pas d'autres ressources à faire valoir qu'un capital agonistique accumulé dans le monde des bandes et parfois réinvesti dans le milieu de la délinquance professionnalisée. Mobilisation qui s'opère dans le cadre d'une vision manichéenne du monde social opposant croyants et infidèles, juifs et musulmans, qui trouve ses racines dans le passé colonial, le conflit israélo-palestinien ou la guerre du Golfe, et d'une vision complotiste du monde social bien faite pour réhabiliter l'intelligence scolairement disqualifiée de type à qui on ne la fait pas. Mobilisation, enfin, annonçant la promesse faite aux classes négativement privilégiées, comme disait Max Weber, d'un salut dans l'au-delà, représentation du paradis comme lieu d'une félicité individuelle, espérance d'un monde renversé où les derniers seront les premiers, transformant les stigmates en signes annonciateurs de l'élection religieuse, subversion posthume de l'ordre social, compensation céleste des conditions matérielles d'existence de jeunes sans avenir, visée de l'avenir propre à ceux qui justement n'ont pas d'avenir, le désespoir terrestre, misère de condition et aux misères de position induites par le désajustement des aspirations et des chances objectives, et le renoncement à toute amélioration future de son sort ici-bas, peut inciter en effet à ne plus attendre d'autres saluts que célestes, dans la conformité au commandement divin, orthopraxie, quitte à devoir s'en remettre à de petites entreprises de salut hérétiques, définies par le travail d'ajustement qu'elles accomplissent entre les révélations du prophète et la demande de cette fraction des jeunes des cités, délivrant ainsi un message qui permet la manipulation symbolique de leurs aspirations en les canalisant vers le djihad. Pour conclure, quant à la manifestation du 11 janvier, l'analyse sociologique ne saurait, à mon sens, se réduire à la dénonciation de la récupération par les médias qui revendiquent pour leur propre compte une liberté d'expression dont on sait l'usage que la plupart malheureusement en font, et par les politiques qui ne passent pas pour de grands défenseurs de la liberté de la presse et ou qui profitent de l'événement pour redresser leur cote de popularité dans les sondages d'opinion. Tout cela est évidemment vrai, mais il faudrait aussi pouvoir rendre compte de la morphologie sociale de la foule des manifestants du 11 janvier qui se laissait difficilement cerner à l'œil nu. S'agissait-il de la bourgeoisie éduquée, comme l'avance Frédéric Lordon ? J'y étais, comme beaucoup d'autres, je n'en suis pas aussi sûr. Et si d'ailleurs tel était effectivement le cas, quel genre de conséquences faudrait-il en tirer ? Quoi qu'il en soit, il faudrait rendre compte aussi des raisons qu'avaient ces manifestants d'être descendus dans la rue. L'enquêteur est alors confronté à la polysémie des « je suis Charlie » ou celle des « je ne suis pas Charlie ». À cet égard, il faudra au moins se souvenir que les lecteurs de Charlie, qui étaient alors au bord de la faillite, n'étaient qu'une infime minorité parmi les manifestants. Qu'ils proclament ces manifestants « je suis Charlie » ou « je ne suis pas Charlie », il s'agissait dans tous les cas non de Charlie, mais des représentations que s'en faisaient les manifestants pour s'y identifier ou s'en démarquer. C'est dire que cette manifestation, comme toutes les autres, fait l'objet de luttes d'interprétation dont l'enjeu est le sens à lui prêter, le fameux esprit du 11 janvier. En l'occurrence, je ne vois pas ce que les sciences sociales critiques peuvent faire de mieux que de tenter d'objectiver ces luttes d'interprétation dont elles sont évidemment partie prenante. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, wouldn't buy shit we don't need.
Toujours sur Angle Mort, donc c'était la chronique de Gérard Mauger de notre émission de critique sociale, de sciences sociales critiques et d'expérimentation sociale aussi. Donc on va poursuivre cette émission apportant plusieurs éléments au dossier d'une sorte de réflexion sur les événements de janvier dernier. Donc on a vu avec le premier texte une tentative d'appeler à ne pas perdre la boule, en gros, à ne pas tomber dans le jeu de la désorientation, un texte qui exprime ce sentiment de se retrouver un peu entre le marteau et l'enclume, l'unité nationale et le néolibéralisme d'un côté et les appels au djihad de l'autre. Dont les populations musulmanes sont évidemment les premières touchées. Et ce texte, enfin cette intervention de Gérard Mauger nous permet aussi de penser la multiplicité des appropriations de l'islam qui sont bien sûr loin d'être toutes relevées d'une forme de djihadisme radical. Et le contexte qui amène ce djihadisme à apparaître, un contexte social notamment. On poursuit donc une nouvelle pièce à ce dossier de réflexion, j'ai envie de dire. C'est un article, un texte qui a été fait par plusieurs enseignants récemment. Suite à, en fait, c'est monté une commission d'enquête sur c'est le titre de cette commission d'enquête du Sénat, la perte de repères républicains de nos élèves. Et donc, quelques enseignants ont protesté contre ça, et je vais lire leur texte vraiment très intéressant. Qu'on peut retrouver, alors c'est par Aggiornamento, et je pense qu'on peut le retrouver sur internet en tapant nom à une commission d'enquête sur la perte de repères républicains de nos élèves. Voilà. Donc, les rédacteurs et rédactrices sont des enseignants du lycée Paul-Éluard à Saint-Denis. Jeudi 19 mars 2015, les enseignants et enseignantes du lycée Paul-Éluard ont été informés par leurs représentants au CA qu'une commission déléguée par le Sénat se rendrait dans leur établissement pour rencontrer différents acteurs de l'éducation nationale, accompagnés de la rectrice. Le proviseur avait en effet demandé aux listes représentées au CA, au conseil d'administration, de désigner, de désigner un ou deux enseignants ou enseignantes et proposer à quelques collègues investis de participer à la rencontre. Il avait fait de même auprès des parents d'élèves et des élèves. À aucun moment, l'intitulé exact de la commission, ni même son mode de fonctionnement, n'ont été délivrés aux enseignants, pas plus qu'à la direction de l'établissement. Intriguée par les formes et les motifs d'une visite pour le moins inhabituelle et précipitée, une enseignante a découvert et communiqué les grands traits des formes et des motifs de création de la commission d'enquête parlementaire, sur le fonctionnement du service public de l'éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants et enseignantes dans l'exercice de leur profession. Créée à l'initiative du groupe UMP après les attentats des 7 et 9 janvier, avec comme objectif de faire la lumière sur une supposée sous-estimation des incidents relatifs à la minute de silence, cette commission a, dans sa forme comme dans ses moyens d'action, suscité de vives discussions au sein du Sénat lui-même. De facto, faire enquêter les sénateurs avec ce que cela implique de pouvoir de citation et de délivrance de documents, instaure un rapport de méfiance avec le corps enseignant. En outre, les auditions de Jean Bobéro et de Jean-Louis Boissineau ne peuvent masquer l'engagement largement conservateur de la plupart des personnes auditionnées. Alain Finkielkraut, Henri Pénaruiz, Jean-Pierre Robin, Luc Châtel, Luc Ferry, Jean-Pierre Chevènement, Alain-Gérard Slama, François-Xavier Bellamy, Gabriel Desrameaux partagent une même méfiance envers une école résolument tournée vers l'apprentissage de l'esprit critique et prônent, certes à des degrés divers, un retour à une école normative, prescriptive, puisant dans le roman national les justifications de cette orientation réactionnaire. Ainsi éclairés sur les formes réelles de la visite présentée, de nombreux enseignants et enseignantes ont décidé de ne pas cautionner une telle entreprise et ont mandaté leurs représentants et représentantes pour le faire savoir. Par le communiqué qui suit, sa lecture a suscité des réactions peu aimables, voire méprisantes de certains membres de la commission qui ont alors refusé de s'adresser aux syndicalistes. La représentante des parents ayant décidé de s'associer à la démarche des enseignants, les membres de la commission se sont tournés vers la rectrice, deux des proviseurs, un enseignant présent et son propre nom, et un élève. Pour finalement se satisfaire, dans leur conclusion, de ce que ces entretiens confirmaient leur point de vue initial. Ils ont ainsi justifié a posteriori la dimension idéologique de leur démarche, ne se rendant pas au contact des enseignants pour tenter de cerner dans toute leur complexité les réelles difficultés qu'ils rencontrent, mais bien pour y justifier un positionnement rétrograde sur la République, l'école ou la laïcité. Voici le communiqué donc lu par les enseignants et enseignantes au moment de cette tentative de consultation par cette commission d'enquête. Mesdames, messieurs, nous nous adressons à vous en tant qu'enseignants représentant le SNES et Sud dans notre lycée, représentation majoritaire et dans la logique du mandat que nous ont donné nos collègues. Après avoir pris connaissance des conditions de création, des objectifs et des modalités de fonctionnement de la commission dont vous faites partie, nous refusons d'être entendus, car nous ne souhaitons pas cautionner une démarche qui a toutes les apparences d'un piège, d'un jeu de dupes et d'une entreprise idéologiquement réactionnaire. Piège parce que nous ne sommes pas auditionnés au sens juridique du terme et que dès lors, nous n'avons aucune garantie ni aucune certitude quant à la forme et à l'usage qui seront donnés à nos propos. Piège parce que nous représentons des gens que nous n'avons pas pu consulter Piège parce que nous représentons des gens que nous n'avons pas pu consulter tant les délais sont courts. Piège enfin parce que nous n'aurons aucun droit de réponse alors que le rapport de cette commission a valeur d'expertise. Jeu de dupe parce que nous assistons depuis plus de 10 ans à un rétrécissement drastique des moyens alloués à l'école publique, que ce soit en termes de personnel ou de formation, doublé d'une suspicion systématique quant à l'investissement et aux compétences des enseignants, et dont cette commission d'enquête n'est qu'une manifestation parmi d'autres. Oui, nous avons des difficultés à enseigner, mais elles tiennent au chômage de masse dont les familles de nos élèves souffrent tous les jours, aux discriminations dont ils sont victimes, à l'insuffisance de médecins, de logements décents en Seine-Saint-Denis. Nous refusons que ces difficultés soient instrumentalisées au profit d'un discours visant à stigmatiser la jeunesse de Saint-Denis. Entreprise idéologiquement réactionnaire, enfin, parce que les discussions dûment transcrites entre les personnes auditionnées et les membres de la commission dont nous avons pris connaissance sur le site du Sénat sont émaillées de propos qui ne laissent aucun doute sur les arrière-pensées politiques qui les sous-tendent. Nous n'ignorons pas ce qui a motivé la formation de cette commission, à savoir l'existence de propos antisémites ou de réactions d'hostilité lors de la minute de silence qui a suivi les attentats du 7 janvier. Mais nous n'enseignerions pas à Saint-Denis si nous n'avions pas confiance dans nos élèves et s'ils n'avaient pas confiance en nous. Nous n'entendons pas confondre la formation des esprits, nécessairement complexe, émaillée de questionnements et de remises en cause, avec les symptômes d'une soi-disant désaffection républicaine généralisée. Nous accompagnons nos élèves dans la formation de leur savoir, condition de leur liberté, et refusons la mise au pas républicaine qui se profile. Nous nous honorons de former l'intelligence et la culture de futurs citoyens, libres d'adhérer aux valeurs de la République, capables d'en comprendre la portée et même de les critiquer rationnellement. Et ce n'est pas en arrachant des foulards à l'université qu'on fera adhérer les enfants de la République à ces valeurs. C'est en protégeant la liberté de conscience de chacun, ce qui est l'objectif de la laïcité. Nos élèves, anciens, actuels et à venir, sont la France, celle qui crée, celle qui partage, celle qui inspire, celle qui invente. Plutôt que de vous alarmer de la disparition d'une autorité qui, pourtant, sourd avec violence dans les rapports sociaux comme dans les représentations collectives que vous assignez à nos élèves, faites donc une place à cette jeunesse de notre République. Merci de nous avoir écoutés. Nous n'avons pas mandat pour répondre à vos questions. Nous appelons tous les établissements scolaires qui seraient invités à participer à ce simulacre de dialogue à le refuser également. Signé des enseignants et enseignantes du lycée Paul-Éluard, parmi lesquels les collègues élus du SNES et de Sud Éducation. Donc, est ajouté à cette lettre une citation donc des premières auditions, hein, une citation d'Alain Finkielkraut qui, dans ce cadre de cette consultation, hein, disait « La crise des vocations vient de la nouvelle situation réservée aux professeurs et cette situation est en lien évident avec le nouveau public scolaire, donc avec l'immigration. » Donc on voit bien effectivement par ce genre de citation qu'est-ce qu'on essaye de faire dire à cette commission d'enquête. Voilà, donc ça c'était une nouvelle pièce à ce dossier de réflexion. On se fait une petite pause musicale et il nous restera le temps d'apporter une dernière pièce donc d'Angle Mort sur Radio Canu.
caché. Le souterrain mal fouillé dont les sentinelles ont égaré la clé. Ma presse.
Toujours l'écoute d'Angle Mort, émission de critique sociale et d'expérimentation sociale sur Radio Canu. Tous les dimanches, enfin ou presque, à peu près une semaine sur deux en ce moment plutôt. Donc sur Radio Canu, émission, enfin Radio Rebelle. Dernière pièce au dossier de ce retour un peu de réflexion sur après la bataille, on a envie de dire après un peu pas l'impression que tout a été dit, mais bon voilà, on s'est donné le temps pour recueillir quelques éléments intéressants. Et donc la dernière pièce au dossier, c'est aussi un texte paru récemment, alors cette fois sur le site Les mots sont importants, et qui donc voilà revient sur, enfin permet aussi de mesurer l'état de l'islamophobie ambiante qui gagne et qui gagne et qui gagne et qui gagne jusque dans nos milieux, et y compris, mais ça même si c'est pas forcément très récent, en tout cas ça s'améliore pas, je pense, du côté de personnes qui se pensent féministes. Et donc c'est un texte publié par N. Della Paille, donc sur Les mots sont importants, texte qui date du 28 mars 2015, intitulé « Stop, mon corps ne vous appartient pas, quand le foulard justifie des violences féministes ». C'est le mois de mars, un mois pendant lequel, en tant que femme, noire, musulmane, je dois célébrer certaines journées. D'abord le 8, qui est la journée internationale du droit des femmes, puis le 15, triste anniversaire du vote de la loi du 15 mars 2004 excluant de l'école publique les filles qui portent le foulard, et enfin le 21, qui est la journée internationale contre le racisme. Nous sommes le 14 mars 2015, une semaine après le 8 mars donc, journée internationale du droit des femmes et veille du 11e anniversaire du vote de la loi du 15 mars 2004. Je décide d'aller avec une amie au festival du film de femmes de Créteil voir « Je ne suis pas féministe, mais » un film de Florence et Sylvie Tissot sur le parcours de la féministe Christine Delphi. J'y vais, toute contente, pensant que ce serait un espace safe, sûr, pour moi. En effet, Sylvie et Christine sont des copines militantes féministes avec qui j'ai lutté en 2004 contre l'exclusion de l'école des jeunes filles portant le foulard. J'étais donc à milieu de me douter que je subirais là encore une violence venant de femmes qui se disent féministes. Il faut rappeler qu'une semaine plus tôt, ce film devait être projeté à la mairie du 20e arrondissement de Paris et suivi de débats prévus sur plusieurs jours, mais que la maire de l'arrondissement a annulé l'ensemble de ses présentations. Je devais intervenir à l'un des débats programmés. En revanche, pour Créteil, je ne pensais vraiment pas qu'il pouvait y avoir de problème parce que trois femmes portant le foulard assistent à la diffusion du documentaire, puis au débat. J'arrive un peu en retard et rate le début du film. Le parcours de Christine, donc Delphi, est applaudi tout au long de la diffusion et jusqu'à la fin où elle dénonce la loi sur le foulard. Christine, Florence et Sylvie sont ovationnées. On nous demande de nous diriger vers la salle où aura lieu le débat. Je réagis la première lorsque la parole est donnée à la salle, pour témoigner toute ma reconnaissance à Christine, qui est une amie avec qui j'échange assez régulièrement et qui m'a beaucoup apporté dans mes combats de femme. Je tenais à lui rendre hommage pour le courage de son engagement contre l'exclusion des filles de l'école. Je ne pensais pas que mon intervention allait cristalliser les débats autour du foulard. Une première femme s'indigne et accuse le foulard. Il faut dire que les femmes portant le foulard ne sont plus que des voiles ambulants aux yeux de beaucoup. Donc accuse le foulard de remettre en cause les luttes menées par les garçons des années 20, qui coupaient leurs cheveux très courts et revendiquaient le droit de s'habiller plus court. Plusieurs autres interventions pointent du doigt le foulard jusqu'au moment où une femme tente de faire le parallèle entre le foulard et le mariage, considérés tous deux comme des symboles de domination de la femme. Elle est elle-même mariée et se voit accusée de soumission à l'ordre patriarcal. Elle qui est féministe, comment peut-elle se marier et rester cohérente avec les idées d'égalité qu'elle véhicule ? Elle invite les féministes à accepter que des femmes puissent se marier ou porter le foulard sans être forcément considérées comme soumises. Et elle rappelle, comme le dit Christine dans le film, que nous sommes toutes traversées par des contradictions. Mais le cauchemar n'est pas fini. À la fin du débat, je me fais interpeller tout de suite par une femme iranienne qui me demande si je suis prête à m'engager pour soutenir les femmes iraniennes battues parce qu'elles ne veulent pas porter le voile en Iran. Non. Elle répond « Je décide des luttes que j'investis, chère madame, je lui dis-je. Je refuse toute injonction à quelque lutte que ce soit, mais pour moi, le dernier mot revient à la femme. Aucune institution, personne ne devrait obliger une femme à porter un foulard ou à l'ôter. » On nous demande à nouveau de sortir de la salle pour discuter à l'extérieur et laisser place au débat qui suit. Sur le trajet, nous nous retrouvons avec deux autres copines portant le foulard à subir un interrogatoire, alors qu'aucune question n'est adressée à ma copine blanche, non voilée. Les injonctions que l'on reçoit s'adressent exclusivement à celles dont on doute qu'elles soient féministes, à celles qui ne peuvent tout simplement pas être féministes, les femmes voilées, les musulmanes. Me voilà projeté à nouveau 10 ans en arrière, pendant les manifestations du 8 mars 2004. Des féministes nous demandaient, à nous qui portions le foulard, si nous étions pour ou contre l'avortement, pour ou contre l'égalité des hommes et des femmes, nos positions sur l'homosexualité et j'en passe. Nous devions prouver que nous étions féministes, mais quelle que soit la réponse que nous leur apportions, le fichu sur notre tête nous disqualifiait d'office. On ne peut pas être féministe et porter le foulard, une féministe doit exhiber son corps, elle doit renoncer à sa foi. Je n'ai pourtant jamais entendu des féministes remettre en question le fait qu'un président de la République ne montre que sa tête, que les différents ministres hommes de la République montrent très peu de leur corps. Non, ça ne dérange personne. Il en est de même des journalistes hommes. Cela ne pose problème à aucune féministe qui n'exhibe pas leur corps. Pourquoi exiger de moi que j'enlève mon foulard parce que certaines ont lutté pour se dénuder? En quoi ce bout de tissu que j'ai sur ma tête remet en cause des années de lutte de femmes? En fait, ce que les femmes nous disent depuis plus de 10 ans, c'est « votre corps nous appartient ». Comment peut-il en être ainsi pour des femmes qui luttent depuis des décennies pour s'approprier leur corps? Parlons de ces luttes justement que des femmes ont menées pour s'émanciper de la domination masculine. Elles les ont menées contre les dictats des hommes qui définissaient la longueur acceptable de leurs cheveux et de leurs vêtements. L'ironie du sort, c'est que ces mêmes femmes qui ont tant lutté pour obtenir la liberté de choix veulent interdire à d'autres femmes d'avoir des choix différents des leurs. Elles reproduisent sur d'autres femmes qui ont seulement décidé d'adopter d'autres règles vestimentaires que les leurs les mêmes violences qu'elles ont subies. Il convient de redéfinir le sens que ces femmes donnent au féminisme et à l'émancipation. Si le féminisme signifie lutter pour l'égalité homme-femme et l'amélioration des droits et de la situation des femmes, comment comprendre qu'autant de violences sur d'autres femmes, quelle que soit la justification avancée, soient féministes? Comment cela peut-il être fait au nom du féminisme? Comment des femmes arrivent-elles à reproduire sur d'autres femmes ces mêmes mécanismes qu'elles dénoncent, sans que cela ne les ébranle le moins du monde? La seule réponse qui me vient à l'esprit est qu'elles sont tellement ethnocentrées qu'elles sont aveugles à la contradiction, pourtant flagrante. Elles sont tellement la norme qu'elles ne se rendent pas compte de leur dérive. Quand ces femmes s'adressent à moi, c'est avec une telle condescendance qu'on croirait que je suis leur sujet. À leurs yeux, je ne peux être libre, autonome, doué de raison, je ne peux être maîtresse de mes choix. C'est tellement infantilisant de se voir expliquer constamment le monde, de se voir traiter d'aliéné, d'éternel enfant. Nous, féministes, musulmanes portant le foulard, devons tenir sur plusieurs fronts. Accusées par la communauté féministe mainstream de trahir leur lutte, nous ne sommes pas comprises à l'intérieur de notre communauté de foi qui réduit le féminisme à cette lutte acharnée pour exhiber le corps des femmes. Et puisque nous sommes des femmes, la lutte pour l'égalité se fait à plusieurs niveaux aussi. Nous devons lutter pour l'égalité avec les hommes, mais aussi pour l'égalité avec les féministes qui combattent la religion et le foulard. Nous refusons de nous laisser dicter la façon dont nous devons nous habiller, par des hommes comme par des femmes. Nous saurons choisir comme des grandes les voies de notre émancipation. Au cours de mes années de lutte militante, j'ai fait l'expérience douloureuse de voir des comportements et des modes relationnels qui n'étaient pas en adéquation avec les idéaux défendus. Je poursuis pourtant mon combat pour l'émancipation. Ma voix, je la trouve aujourd'hui avec un groupe de sœurs afro-féministes que j'ai rencontrées à l'occasion du tournage du film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie. Avec elles, je ne suis pas contrainte de renoncer à une de mes identités. Je n'ai pas de malaise à être musulmane. C'est contre toutes les discriminations que nous subissons que nous luttons en tant que femmes noires, croyantes ou non, grâce à l'intersectionnalité, ce concept américain qui nous permet de refuser de penser en termes de priorité nos luttes ou de devoir remettre à plus tard certaines d'entre elles. Pour nous, ni la lutte des classes ni celle de race ne doivent être mises au-dessus des autres luttes. C'est contre toutes nos oppressions que nous luttons en parallèle. Nous sommes multiples, nous sommes à des croisements. Enfin, une vraie bouffée d'oxygène. Donc Ndella Paye, l'auteur de ce texte, est militante afro-féministe, antiraciste et membre du collectif Maman Toutes Égales. Et c'est un texte qui a été aussi paru sur Mediapart. Voilà, donc je pense avoir apporté plusieurs pièces à la réflexion. Il y a des choses, moi je ne suis pas totalement tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai. Voilà, mais ça me semble être positif tout ça, j'ai envie de dire. Voilà, donc je laisse la place à la causerie maintenant. Je passe à un dernier titre musical pour la transition. On a écouté juste avant aussi, c'était The Soul Jazz Orchestra avec le titre Kingdom Come. Là, donc ça va être Kazé avec Créature Ratée et ces différentes pièces, comme je les ai appelées ce soir, de réflexion. Je les mettrai, on pourra la retrouver sur le blog de l'émission Angle Mort, hébergé par le site internet de Radio Canu. Voilà, on se dit à bientôt. Bonne soirée.
Blanc ingénieur, noir ingénu, au rang des seigneurs ou dépourvu de génie, grand vainqueur à l'âme de gagneur. Fainéant et menteur, tout ça dans un même corps réuni. Race qui réussit, espèce peut avancer, sans histoire écrite ni récit, donc sans passé. Inventeur cravaté, créateur gâté, créature ratée, sans grandeur à cravacher. Civilisateur, sensibilisé, par train de vie aisé, hectare à dévaliser. Martyr, dans la moiteur désalisé. Moteur, d'immense fortune réalisée. Amateur de belles lettres et de poésie. Frappeur de tambour avec fracas et frénésie. Grand penseur encensé, petite frappe assassin. Baroudeur résistant, quémandeur assisté. Humble sur
sujet du Tout-Puissant. Se référant au Livre Saint. Individu indécent qui dissimule à peine et leur sexe et leur sein. Et leur sang est souillé, leurs chants sont brillants, dépouillés d'humanité, leurs yeux sont fuyants. Apprenons-leur à prier Jésus-Christ sans crier et trier la canne à sucre tout en souriant.
Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est planté en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée.
Que disent la science et la messe, toutes les grandes puissances du monde et la presse, que cette noirceur en présence dans la pièce vous êtes inférieur comme la chienne et la naisse. Bon chrétien, j'acquiesce volontiers, j'angoisse les eaux glacées placées devant ce corps sans grâce. Et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face. Ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe. Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces. La pommette est saillante, chers clients, clientes, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique lointaine et luxuriante.